station. Donc, j'annonce tout de suite que Ariès a un train à prendre et donc il devra partir vers 45. Et donc, si vous avez des questions qui sont plus sur la partie que Ariès va faire, il serait bon qu'on commence par cette série de questions-là. Moi, je peux rester jusqu'à 5 heures. Donc, je vais faire une courte introduction, puis après, on a deux parties qui sont séparées dans l'exposé. Donc, c'est un exposé qui, en partie, est plutôt exploratoire. Sur des choses où on a en fait beaucoup de questions qu'on aimerait vous poser, sachant qu'on a des réponses qui viennent plutôt d'ailleurs, et que donc Ariès commence une thèse sur l'art combinatoire comme Arsène Benyendi chez Leibniz, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu le sens de cette interrogation. Donc je vais commencer très rapidement par dire des choses qui sont relativement connues, mais c'est juste pour qu'on tout le monde les ait à l'esprit et pour que ceux qui ne les ont jamais vus les voient au moins une fois. Donc je pense que vous savez tous que l'ars combinatoria joue un rôle prééminent dans le dispositif épistémologique de Leibniz. Et quelque chose qui est tout à fait remarquable sur ce thème, c'est qu'il joue un rôle prééminent du début à la fin. Et en fait, finalement, on se rend compte que pour d'autres thèmes, c'est moins clair. Mais pour lui, c'est vérifié, c'est factuel. Donc ça, je voudrais commencer par vous le rappeler, parce que ce n'est pas simplement étonnant au sens où il tient la même place. On peut discuter sur le fait qu'il tient la même place. Donc j'ai juste dit qu'il tenait un rôle prééminent du début à la fin, ça c'est vrai. Mais ce qui est aussi très surprenant, c'est qu'on peut voir une certaine définition de l'ars combinatoria qui va s'élaborer assez vite et qui va subsister au moins jusque dans les années 90, sans aucun doute. Je vous rappelle juste, bien sûr, le début de cette histoire, c'est la dissertation des arte combinatoria que Leibniz publie en 66, donc ça c'est absolument évident. Ariès va vous en parler longuement par la suite, mais on va tout de suite aller vers un texte tout à fait typique de cette place, parce que dans le de arte combinatoria, bien sûr, l'art combinatoire tient un rôle prééminent, mais Leibniz lui-même n'a pas encore vraiment fait beaucoup d'activités dans tous les sens. Donc c'est intéressant de voir un petit peu plus tard comment il parle de cet art combinatoire et aussi de ce qu'il a écrit en 66. Et un exemple typique, il y en a beaucoup, mais assez tôt, c'est cet échange qu'il a avec Tchernos en 78, et dans lequel c'est une polémique, en fait, sur la place de l'ars combinatoria. On n'a pas la lettre de Tchernos, mais il est assez clair, puisqu'il y a une citation que Tchernos disait « L'art combinatoire, c'est qu'un petit bout des mathématiques. » Et Leibniz dit « Tu dis qu'il y a beaucoup de gens, je suis certain de vous paraphraser le début, parce que c'est trop long pour que je réalise toutes les citations, puis c'est assez connu. Tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais en fait, moi, j'en connais qu'un seul, c'est moi. » Et donc, il a bien compris à qui s'appliquait la critique de Tchernos, qui est son ami. Ils se sont quittés peu de temps avant, deux ans avant de Paris. Et là, il donne cette définition. Donc, il explique que Tchernos a tout à fait raison. Si la combinatoire, on la prend dans son sens strictement mathématique, c'est une partie des mathématiques, et c'est même une partie de la théorie des nombres, pour lui, de l'arithmétique, et donc de l'algèbre au sens où l'arithmétique, pour lui, est subordonnée à l'algèbre. Mais ce n'est pas ça qu'il entend par combinatoire. Donc là, il le dit très clairement, et c'est une définition qu'on retrouve constamment. Et vraiment, pour moi, la combinatoire s'en trouve à l'évidence très loin de la seule algèbre. Science des formes, là, c'est vraiment cette définition qui va revenir tout le temps, c'est-à-dire du semblable et du dissemblable, de même que l'algèbre est la science de la grandeur, c'est-à-dire de l'égal et de l'inégal. Bien plus, et ça c'est important aussi, la combinatoire semble peu différer de la science de la caractéristique générale, ce qui n'est pas du tout évident quand on vient de voir la définition d'avant, science des formes, du semblable et du dissemblable. Elle semble peu différer de la caractéristique générale, grâce à laquelle les caractères adaptés à l'algèbre, à la musique et même à la logique ont été ou peuvent imaginés. Là on voit bien le dispositif qui se met en place, et bon, c'est une lettre assez longue. Et l'idée vraiment très importante que Leibniz veut mettre en avant, c'est que même dans l'algèbre, on doit prendre en considération une notion de forme des équations. Je ne vais pas expliquer quel est le substrat technique à cette remarque, mais c'est une remarque tout à fait juste. Et cette idée que deux équations ont ou n'ont pas la même forme, ce qui n'est pas tout à fait évident. On va regarder une équation dans les yeux et une autre. Qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'elles n'ont pas la même forme? Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important que Leibniz voit, Et ensuite, il va dire, et c'est aussi ce que je vous rappelle, donc on a vu que ça s'appliquait à la musique, à l'arithmétique et à la logique, mais aussi, bien sûr, au nouveau chantier qui est celui de l'analyse d'institus. C'est là où on voit à nouveau que ce n'est pas si évident en quel sens la combinatoire s'applique à l'institus. Ceci a lieu non seulement dans les formules exprimant la grandeur, mais aussi dans toutes les autres. En effet, on peut inventer des formules exprimant la situation et tracer des droites, et cela sans que la grandeur des angles soit prise en considération. C'est une claire référence à son programme d'analyse des situations. Et à la fin, vous voyez, vous avez cette idée que, ben, en fait, cette combinatoire ou caractéristique générale contient non seulement bien plus que l'algèbre, mais grâce à elle, en fait, toutes nos pensées peuvent être, pour ainsi dire, peintes et fixées, ainsi que rassemblées et mises en ordre. Et là, vous retrouvez un autre aspect de la combinatoire. Donc là, tout est là. Là, vous avez vraiment tous les fils qui parfois sont dispersés dans certains papiers, et la lettre continue là-dessus, c'est-à-dire c'est le fameux thème de l'alphabet des pensées humaines, et le fait qu'on peut retrouver toutes les vérités par des moyens combinatoires. Donc, si vous regardez les textes de cette époque, vous allez trouver pas mal de textes qui disent la même chose. Parfois, ça va aller même un petit peu plus loin, c'est rare, mais ça arrive, et je le mentionne parce qu'on va le retrouver jusqu'à la fin. Et ça, c'est déjà présent dans le DRT combinatorien, c'est-à-dire que la combinatoire touche même en quelque sorte à la métaphysique. Donc ça, c'est un thème qui apparaît de loin en loin, qui est peut-être moins présent que son identification avec la caractéristique générale, mais qui à nouveau est troublant, puisqu'il est déjà présent au moins dans le programme du DRT combinatorien, et il va réapparaître, vous allez voir, dans des textes des années 90, 1710, de la toute fin, 1715. Une autre chose qui est intéressante dans ce texte-là, il y en a plusieurs hein, de cette époque, sur l'usage de l'art combinatoire dans l'encyclopédie, sur la combinatoire comme Arsène Vénienne, dit « j'y reviendrai ensuite dans ma partie d'exposé », mais pour le moment c'est juste l'introduction à l'exposé. Une chose qui est intéressante ici, c'est la distinction qu'on va retrouver aussi assez constamment entre deux visages de la combinatoire qui peuvent avoir des noms variables chez Leibniz. Parfois ils s'appellent du même nom, Ars Combinatoria, mais une autre manière de le dire, alors ici c'est la différence entre l'Ars Combinatoria et la science des combinaisons, qui va être donc la partie plus versée vers les mathématiques, mais vous voyez qu'elle est quand même la science des odèmes et des berceaux, elle est assez générale même sous ce visage-là. Et une autre manière de le dire qu'on retrouvera, c'est la différence entre une combinatoire générale et une combinatoire spéciale, c'est dans le plus sûr, hein, tu connais ça par cœur. Donc ça c'est assez intéressant. L'autre identification qu'on rencontre dès cette époque, c'est celle entre la combinatoire et le calcul universel. Hein. Je vais revenir sur tous ces trucs-là, mais c'est juste pour vous les dire. Donc ça c'est des choses qu'on voit apparaître comme ça, des systèmes de rapprochement. Un des textes qui est peut-être les plus célèbres sur la manière dont Leibniz lui-même a raconté cette histoire en expliquant que vraiment ça venait du DRT combinatoria, il y en a plusieurs à nouveau, mais ça c'est un des plus célèbres, c'est le fameux « De synthesi et analysi universali », etc. Et ça commence par un récit autobiographique que je pense que la plupart des gens ici connaissent, et ce récit c'est précisément celui-là. Quand j'étais jeune, je posais des questions à mes maîtres sur la logique et je demandais « mais comment est-ce qu'on connecte l'analyse des notions avec l'analyse des vérités, et notamment comment on connecte les termes complexes avec les propositions et les vérités. » Et j'ai eu cette idée que si on savait vraiment élaborer les catégories, les prédicaments, on aurait la cheville qui nous manque pour aller depuis l'analyse des notions jusqu'au raisonnement. Donc ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, la modalité combinatoire, je ne vais pas le relire, mais vous voyez bien ici que c'est lui qui dit que c'est dans le DRT combinatorial. Et ça, il le dit constamment. C'est pas une invention des commentateurs. Il y a beaucoup de choses dont on va parler qui sont des inventions des commentateurs. Mais c'est lui qui a créé ce mythe, que tout ça a été déjà dans le DRT combinatoria. Et si vous lisez la toute fin du Desi, eh bien, vous retrouvez la même définition. Là, on est un texte qui est plutôt dans les années 80. On n'est pas tout à fait sûr, mais on est plutôt dans les années 80, donc on avance dans le temps. Et vous retrouvez exactement la même définition, c'est la fin du texte. Je considère la combinatoire en particulier comme une science, que d'une manière générale, on pourrait aussi appeler caractéristique ou spécieuse, c'est vraiment toujours les mêmes identifications, qui traitent des formes des choses ou des formules. Donc là, on a cette définition qu'on va voir tout le temps, science générale des formes et des formules. Et toujours cette même idée qu'elle se distingue de l'algèbre qui s'appliquait aux quantités. Voilà, et ça continue. Donc ça, c'est un texte dont on parlera Michel Cuchon s'il vient un jour, et sinon, elle est dans son volume. Donc ça, c'est dans tous les échanges autour de la podcastasie, c'est la restitution universelle, et donc le volume de l'horizon de la doctrine humaine. Il y a cette fameuse lettre à Bignon, alors qui est plutôt au début de l'histoire, en 93, Et j'ai recherché, en fait, dans les textes publiés par Fichon, finalement, la définition de la combinatoire très générale qui est donnée ici est plutôt au début, ce qui va être intéressant pour l'histoire que je vais raconter après, c'est plutôt dans les années 90, mais n'apparaît pas dans les textes des années 1700, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas... c'est juste qu'elle n'est pas présente dans les textes qu'il a édités, hein. Mais c'est toujours la même... Là, je ne vais même pas le lire, parce que c'est vraiment toujours pareil, donc c'est intéressant, vous voyez, on passe de 10 ans en 10 ans, on arrive quand même dans les années 93, là, c'est des textes que nous, on a édités, le groupe Mathesis, ça, c'est un texte qui est très souvent cité. Donc là, celui-là, on peut le dater précisément, c'est une des découvertes qu'on a faites. Donc on sait exactement qu'il est autour de 98-99, peut-être 1700. Et vous savez, cette idée que, ben voilà, quand on fait des mathématiques, il ne faut pas se limiter à l'algèbre, parce qu'il y a cet art combinatoire dont dépend l'algèbre. Et on va rater des choses. Donc ça, c'est pareil, c'est juste pour vous montrer. Et à nouveau, l'art combinatoire ou spécieux général. Toujours cette équivalence. Très étonnant, vous avez la spécieuse particulière qui est l'algèbre et la spécieuse générale que vous pouvez aussi appeler caractéristique, etc. Et enfin, pour finir, pour qu'on ait juste traversé tout, là on est après 1714, puisqu'il y a référence à un article de Wolf, à un livre de Wolf qui était référé dans les Acta Eruditorum en 1714. Donc le fameux Initia Rerum Mathematicarum Metaphysica, et même chose. Et là, cette fois, avec un thème métaphysique qui revient, hein, étonnant, l'art combinatoire, c'est-à-dire la doctrine des formes abstraites par l'esprit, laquelle est la caractéristique universelle, jusque-là, on est sur terre, et touche à la métaphysique. Hein. Donc, vous voyez, on a ces thèmes qui reviennent dedans, c'est très troublant, parce que c'est toujours la même définition, c'est toujours les mêmes équivalences, et il y a toujours le même réseau de signification, et on ne peut pas dire autant, par exemple, de la mathesis universalis, on ne peut pas dire autant de la scientia generalis, comme l'a bien montré Arnaud, on ne peut pas dire autant de l'analyse situs, comme l'a bien montré Vincenzo, donc c'est intéressant. Là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait qui résiste bien par rapport à certaines interprétations. Donc ça, c'est la première chose que je voulais rappeler. Donc, nous, dans cet exposé, on va se concentrer sur l'articulation entre l'art combinatoire et la mathésis, et les mathématiques. Hein. Et en particulier la mathésis universaliste, parce qu'elle revient dans cette histoire, mais ce n'est pas juste la question. Donc le point de vue de la combinatoire spéciale, ça a déjà été bien étudié par Knobloch, et Ariès vous en dira un mot, et nous, notre objectif, c'est d'aller plus loin. Donc on va rappeler les thèses de Knobloch, Ariès va en parler, mais l'idée, c'est d'arriver vraiment voir quelle est l'effectivité, qu'est-ce qui soutient cet optimisme lamnicien que l'art combinatoire est un art sinvenienti en maths. Pourquoi il croit ça? Parce que finalement, tout le monde le dit. Et puis tout le monde dit, bah oui, c'est parce que c'est la caractéristique universelle. Ouais, mais ça ne nous avance pas beaucoup, parce que la caractéristique universelle, on n'en a pas beaucoup d'échantillons, vous voyez. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, pourquoi ils pensent ça? Pourquoi ils pensent que cette science des formes et des formules a une effectivité jusqu'au bout, et qu'elle est très importante? Ça, c'est notre question. Et on n'a pas encore toutes les réponses, mais on a des éléments de réponse qu'on va vous apporter, et on aimerait vous entendre. Donc, l'autre chose que je voudrais rappeler très brièvement, en deux minutes, pour qu'on en arrive à la fin du premier quart d'heure, puis après je laisserai la parole à Ariès. L'autre chose que je voulais vous rappeler, c'est qu'à cause de ces identifications, évidemment, mais ça vous êtes au courant, les commentateurs ont fait un jeu que Arnaud a très bien appelé une forme d'anadiplose, et peut-être même d'épanadiplose, puisque c'est plutôt marabout bout de ficelle. Non, là c'est pas marabout bout de ficelle, justement, ça c'est l'anadiplose, mais c'est plutôt quand vous reprenez un mot à chaque fois. Donc l'idée étant, vous avez un texte qui met Ars Combinatoria et Mathesis Universalis, et après vous prenez un texte qui ne parle pas du tout de l'Ars Combinatoria, mais qui parle de Mathesis Universalis, et vous dites c'est la même chose à chaque fois. Et ce jeu-là a été pratiqué, alors à non plus finir par les commentateurs, et donc quand vous lisez les commentateurs jusqu'à aujourd'hui, sur les thèmes qui nous ont beaucoup intéressés, comme la Mathesis Universalis, là je ne parle pas de Knobloch qui travaille que sur la combinatoire spéciale, mais vous avez très souvent ces identifications, et en général sans aucune justification. Donc ça, c'est sinon le jeu de mettre bout à bout des textes. Donc quelques exemples, alors là, je pense que c'est le plus caricatural, c'est le texte de Mittelstraß sur la mathésis universalis conçue par les philosophes. Bon, c'est certainement le moins informé des textes sur la question. Mais là, c'est vraiment typique, c'est-à-dire tout est dans tout. La mathésis universalis, c'est la même chose que... C'est une partie de la caractéristique universalis, c'est-à-dire l'art combinatoire, développée dans un calcul universel. Voilà, tout est là. Bélaval, qui est quand même plus prudent, plus attentif au texte, vous avez ce fameux schéma sur lequel je reviendrai, qui est en gros absolument n'importe quoi, mais qui est typique en fait, et qui est convaincant, qui a l'air d'être plausible avec les textes que je vous ai donnés. Si on s'arrête à l'endroit où je me suis arrêté, aux déclarations programmatiques et encyclopédiques, on peut faire ce genre de choses-là. Donc vous voyez, vous avez la logique tout en haut, d'ailleurs qui l'appelle logique formelle, on se demande bien pourquoi, mais certainement pour la faire voisiner avec cette idée de calcul. Ensuite, vous avez une spécification qui est la combinatoire, c'est-à-dire on va s'intéresser à la logique du point de vue de ces aspects combinatoires, ça il a raison, c'est pas toute la logique, il y a des aspects méthodologiques et tout. Et après, on va spécifier dans la mathésis, et qu'est-ce qui spécifie, c'est qu'on arrive dans le domaine des imaginables, comme on a vu dans un des textes. Ça, c'est vraiment la thèse de Couture. C'est vraiment la thèse de Couture reprise, et c'est après que ça va devenir du grand n'importe quoi, et on verra pourquoi c'est du grand n'importe quoi, et pourquoi ce grand n'importe quoi nous oblige à réviser ce qui est en haut, en fait. C'est-à-dire que personne n'est allé regarder ça, vraiment, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que ça, ça marche? Est-ce que c'est ça, c'est l'effectivité de la combinatoire? Si c'était vrai, ça marcherait bien. Mais d'ailleurs, on se doute que c'est du grand n'importe quoi, parce que vous avez la qualité et la quantité, ça, ça nous va, on l'a déjà vu, mais pourquoi vous avez la science infinity qui est là? Pourquoi elle n'est pas dans la quantité? La science infinity traite de quantité, hein, a priori. Il a toujours dit ça, il y a pas de... Donc on sent bien qu'il y a un truc bizarre, mais après, si on regarde en bas, ça devient carrément comique. Donc, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la géométrie analytique, tout d'un coup, converge avec la géométrie algébrique. Enfin, je veux dire, en termes modernes, ça n'a aucun sens. Donc, il était fatigué. Peut-être plus préoccupant, Schneider, ça c'est le grand papier avant des travaux, d'autres travaux sur la mathésis universalis, chez Leibniz, qui est un papier sérieux, vraiment bien informé, il est allé regarder les inédits et tout. Et lui fait exactement toutes ces identifications, la même idée, c'est-à-dire que la mathésis universaliste est à la mathésis spécialiste que l'ars combinatoria, ou la logique, je crois, dans ce cas, la scientia generalis, c'est pour toi, cadeau, est à la mathésis universaliste. Donc c'est une idée d'application, de restriction, hein, mais il dit que c'est bien les mêmes principes, en fait. C'est les objets qui ont changé. Et quelques lignes avant, il a appelé cette logique ars combinatoria. Une des raisons qui peut quand même nous amener à nous interroger sur l'aspect mathématique, d'abord, c'est ça. C'est-à-dire, tout le monde en parle, mais en fait, quand les gens veulent préciser un petit peu, ils disent vraiment des choses bizarres, hein, comme s'ils n'avaient pas regardé. Et puis, on peut dire qu'au moins, depuis Knobloch, ça devient un peu difficile de pas au moins aller ouvrir le livre de Knobloch, déjà. Et puis, c'est plus une petite partie c'est que la face immergée de l'iceberg, comme on verra. Et puis, d'autre part, donc ça justifie d'aller regarder vraiment les interactions avec les mathématiques, même si on a bien conscience que c'est qu'un aspect de l'ars combinatoria, on en reparlera. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a vu qu'il y a des liens avec des notions comme celle de mathématiques infinies, et comme celle-là, eh ben, on a travaillé dessus, on a des informations qui finalement vont contredire ce schéma. C'est là où ça va devenir intéressant de comprendre. Et notamment, vous n'allez en tout cas jamais trouver un seul texte où mathématiques infinies et ars combinatoria sont identifiés. Ça, jamais, pas un seul. Okay? Et vous avez bien l'idée de subordination, mais qui est complexe, puisque c'est une relation qui peut marcher dans les deux sens, à cause du côté général et spécial. On regardera. Et de toute façon, il faut arriver à expliciter quel est. C'est pas un type de. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dans un premier temps, on va repartir du DRT combinatoria. Et on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le DRT combinatoria. Parce que le problème, c'est que comme Leibniz a raconté cette histoire a posteriori, il a rendu cohérent des choses qui ne sont pas du tout présentées comme ça dans le DRT combinatoria. Donc, il faut distinguer deux thèses. Une thèse qui dit qu'il y a différents fils dans le DRT combinatorial, ça c'est vrai, et l'idée qu'il les a déjà noués. Donc la première thèse, je pense qu'elle est consensuelle, la deuxième thèse, qui est la thèse à la Michel Serre, évidemment c'est la thèse que Fichon a voulu dégommer, c'est assez explicite dans la doctrine de raison. L'horizon de la doctrine humaine. Donc ça, il a raison. Donc ça, on va réexpliquer pour que tout le monde soit bien au clair pourquoi, en fait, un certain nombre de choses qui sont nouées plus tard ne sont pas du tout nouées dans le DRT combinatoria, et c'est pas un détail. Et notamment, un truc qui n'est pas noué, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que quand Leibniz, et ça, j'aurais pu insister là-dessus en lisant les citations, mais par faute de temps, je ne le fais pas, quand Leibniz raconte cette histoire, le paragraphe d'après, quand il dit « j'avais déjà eu une idée de ça dans le DRT combinatoria », le paragraphe d'après va toujours dire la chose suivante, mais à l'époque, je ne connaissais pas les mathématiques. Et donc, ça ouvre une question, qui est la question qui va diriger la partie dont Arrivès va vous parler, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé quand il a appris les mathématiques? Visiblement, ça a confirmé certaines de ses intuitions, mais comment? Enfin, je veux dire, c'est pas gagné, puisque lui-même dit qu'il a eu ses idées avant d'étudier les mathématiques, ce qui est factuellement vrai. Mais il le rappelle tout le temps qu'il ne connaissait pas les mathématiques à ce moment-là, et notamment qu'il y a des choses qu'il n'avait pas vues. des connexions qu'il n'avait pas eues. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis, dans un second temps, donc Arilès, il va s'intéresser surtout à la partie entre le DRT Combinatoria et le séjour à Paris. Et moi, je reprendrai en insistant sur les aspects plutôt de la connexion entre Ars Combinatoria et MAT. Et moi, après, je repartirai là-dessus et je vais reparler des questions méthodologiques en suivant le fil de la mathésis et de la mathésis versalis à partir des éléments qu'on aura vus dans un second temps qui sera modulable en fonction du temps dont tu auras besoin. Donc voilà. Donc, je te laisse. Tu prends le pour appuyer.
Ok. Voilà. Merci beaucoup, David, pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Donc, je vais parler durant mon cours exposé du tout début de ma thèse et surtout de mon mémoire de master, qui donc, le mémoire s'est entièrement intéressé, s'est entièrement circonscrit au DRT Combinatoria. Et du coup, le début de ma thèse déborde sur le début de la période parisienne et la période entre Leipzig et Paris. Donc, j'ai commencé par parler de la dissertation DRT Combinatoria. Donc, j'avais prévu quelques remarques préliminaires, mais finalement, elles sont plus ou moins déjà, ça va être plus ou moins des redites de ce que David dans son introduction, à savoir ce statut de la logique ce statut absolument systémique de la logique et qui relie connaissance rationnelle. Donc ça c'est une citation d'un papier sur une vision kabbalistique de Leibniz. Puis ça c'est une citation de Boutura, où on voit vraiment qu'il y a une vision très systémique du coup de la pensée leibnizienne et dans laquelle l'art combinatoire et la logique ont un rôle central de cœur et sont parfois même identifiés. Donc comme l'a dit David, cette mouvance des commentateurs est fortement légitimée par le Leibniz lui-même qui, en parlant de l'art combinatoire, fait ses liens avec le DRT combinatoria. Souvent quand il parle de l'art combinatoire et qu'il dit « je m'intéresse à ces questions depuis N années », quand on fait le calcul, on tombe sur 66 parce que c'est le DRT combinatoria. Donc à chaque fois, pour lui, c'est le DRT combinatoria qui est l'origine de son questionnement à ce sujet. Voilà, donc ça c'est une citation de Deleuze qui est aussi montre cette vision des commentateurs du système leibnizien. Chez Leibniz, les deux choses. On peut penser que deux choses qu'il dit sont contradictoires, mais en fait, c'est deux niveaux du système, et on aura l'impression qu'il ne cesse pas de se contredire, et en fait, il ne se contredit pas du tout. Donc voilà, cette volonté de faire système en vient à créer des. On vient à adapter même le discours pour justifier qu'il y a un système absolument cohérent sur toute la carrière de Leibniz et dans lequel on veut introduire de force le DRT combinatoria, mais cette introduction est forcément a posteriori puisque Leibniz en 66 n'avait absolument aucune idée de sa future pensée et sa future carrière. Voilà. Donc là voilà, ça c'est un passage de Coutura où il y a vraiment une identification entre l'ars indéniendi, la spécieuse générale, la caractéristique universelle et le rôle de la combinatoire dans tout ça. Et donc là, on peut regarder la spécieuse générale ou la caractéristique universelle qui remplace les concepts par des combinaisons de signes, les propositions par des relations entre ces signes et le raisonnement par une sorte de calcul. Et donc ça, c'est une référence au DRT combinatoria, où dans le DRT combinatoria, on peut trouver des citations qui justifient un peu cela. Alors, donc ça, premier passage, et donc les deux sont des passages du DRT combinatoria. Le premier passage, où Leibniz nous parle de son écriture universelle, et il nous dit, on pourrait faire une écriture universelle où un point représenterait l'unité, des points les nombres, pour des relations entre deux êtres des lignes, pour des variations des angles, des termes, des lignes, ou ce genre de relations. Et une autre citation dans un autre contexte liberté, où là il parle de Thomas Hobbes, et pense qu'il a raison de dire que toute œuvre de notre pensée est un calcul, et que ce fait est l'origine même du fait que les géomètres, et les algébristes et les analystes ont usage des deux signes fondamentaux que sont plus et moins, qui en fait tirent leur origine de la structure de notre pensée qui est calculatoire, et donc le plus représente la composition de la pensée, et le moins la division de la pensée. Donc quand on trouve ces passages, on se dit, bah oui, effectivement, la ligne savait déjà tout. Mais quand on regarde effectivement ce qu'il fait de ce calcul et comment il le conçoit plus en détail dans le DRT, on se rend compte que finalement, c'est pas aussi clair que ça. C'est une dernière citation où justement Leibniz parle de son lien entre l'écriture universelle et son projet d'écriture universelle et le lien avec la logique inventive. Et donc pour Leibniz, enfin, à la lecture de ces quelques passages, on peut se dire que déjà dans les RT combinatoriales, il y a cette idée que la division des notions et la combinaison de ces notions simples et via le projet d'une caractéristique universelle existe déjà et donnera à celui qui aura accompli ce projet un accès direct au raisonnement et un art parfait de juger et d'inventer. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est le seul passage où il en parle, et c'est vraiment à l'état de projet. Et donc, l'écriture universelle, Leibniz en donne un exemple, il se lance dans le DRT combinatoria, dans l'exercice, et on voit dans cet exercice qu'il a une notion complètement... qui n'a pas... ce passage, ça commence à 1, punctum, et ça se termine à figurare. Et donc il commence par donner une liste de 27 notions simples, et puis classe 2, classe 3, etc. Et dans chaque classe, il va donner des notions qui sont composées de, dans la classe n, des notions qui sont composées de n notions simples. Et donc on peut se dire, c'est effectivement le projet, mais donc si on regarde par exemple, si on décortique un exemple, donc j'ai décortiqué l'exemple du cercle, donc il va dire le cercle appartient à la classe 22, et donc il dit le cercle est 1 sur 12, 8, etc. Et donc en fait, ces nombres-là représentent des notions qui ont été définies plus haut, dans des classes inférieures. Donc on peut remplacer par les mots, ça nous donne le cercle et plan inclus par toute région. Ayant des distances égales à donner d'un certain point à tout terme, ce qui n'est pas très clair à lire. Donc on est obligé pour y voir vraiment une définition de traduire, de l'écrire en français, qui donne le cercle est une surface plane circonscrite par tous les lieux qui ont une distance égale entre un certain point donné et toutes les extrémités. Donc on peut se dire, oui, ça marche, mais on se rend compte qu'en fait, la grammaire est pas du tout en côté. La grammaire est restée sous forme de mots. Il y a le est, le ap, le abens, les mots en grec, je ne saurais pas dire, les alikouyous, etc. Donc il y a encore énormément de mots de grammaire qui sont employés et qui ne sont absolument pas codés. Donc en fait, les relations, elles, ne sont absolument pas codées. Ce qui donne, c'est juste une sorte de méthode de classification des mots, presque une sorte c'est presque un lexique plutôt que qu'une sorte de caractéristique. Et donc il n'y a absolument pas de calcul. Il choisit d'écrire un mot de n-ième classe comme étant A sur n, où A c'est le rang dans la classe n, donc si c'est le i-ième mot de la classe n, on va l'appeler A, et donc le dénominateur, c'est ce qui dénomine la classe, c'est n. C'est complètement du choix de Leibniz, le rang dans la classe n'a aucune justification et il n'y a absolument aucune, aucun calcul à faire. La concaténation de deux mots n'a pas de sens sur l'opération sur les fractions. Le seul calcul qu'il y a, c'est qu'effectivement, bah, quand on concatène deux mots, on obtient une classe on obtient un mot qui possède la somme de toutes les notions, et donc bah, les dénominateurs vont s'additionner. Donc c'est le seul endroit où il y a ce qu'on appelle un calcul mathématique, c'est que les dénominateurs s'additionnent, mais ça, la liste le précise donc. Voilà. Et donc, si on va jusqu'au bout, on obtient, si on enlève les mots grammaticaux, les est, les abens, etc., on obtient ce truc-là. Et là, pour le coup, il n'est plus du tout possible de comprendre que c'est un cercle. Il n'y a plus aucune possibilité. Et encore, j'ai rajouté le parenthésage, mais pour la limite, il n'y a pas de parenthésage, il n'y a pas d'ordre, puisque la concaténation des notions se fait de façon... c'est des combinaisons, ce n'est pas, pas des permutations, ce sont mathématiques, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas pris en compte. Et donc, normalement, ce serait juste cette liste-là. Et là on est vraiment bien avancé, et ça marche. Et on voit qu'en fait, il l'a écrit assez rapidement, parce que même si on dénombre le nombre de notions, en fait, on en compte 24, alors qu'il l'a classé dans la classe 22. Ça, c'est une petite coquille. Voilà. Donc ça, donc voilà l'écriture universelle que nous propose Leibniz dans PRT Combinatoria. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le passage sur l'écriture universelle est un tout petit passage du DRT combinatorial. Et en fait, c'est pas du tout clair que ça soit l'idée principale du DRT combinatorial. Alors, je voudrais aussi parler de Lull. Lull, par contre, a un rôle beaucoup plus fort dans le DRT combinatorial, et même plus fort que ce que Leibniz concédera plus tard. Il va toujours dire que Lull a été une forte influence, mais il va très vite s'en détacher, disant que... je vais faire un inverse. Donc, j'ai d'abord commencé par cette citation dans une lettre au duc de Hanovre de 1679, où il dit que l'art de Raymond Lull a encore quelques relations avec ce que je propose, donc l'art des combinaisons telles qu'il le définit déjà dans la lettre à Tchernos un an avant, donc vraiment lié avec la science des formes et des formules et des similitudes, car il sert de quelques termes généraux comme magnum, potentiel, ratio ou virtus, qui se peuvent appliquer à toutes sortes de choses, et cela lui donne moyen par leur combinaison de disposer amplement à quelque chose que ce soit. Donc l'art de Lull permet en fait de donner une direction dans l'art du discours, mais il ne touche pas réellement à ce qu'est vrai, ontologiquement la combinatoire et la division des notions, des propositions en notions simples. Donc c'est là qu'il dit c'est l'ombre seulement de la véritable combinatoire qui n'a pas laissé de trouver les admirateurs, quoi qu'elle ne fasse qu'effleurer les choses. Cependant, l'art de Lull subsiste et fait une espèce de secte et s'enseigne même encore publiquement dans l'île de Mayer, patrie de cet auteur. Donc, il se prend quand même une large distance avec Lull, ce qui n'est pas du tout le cas dans le DRT Combinatoria, où dans le DRT Combinatoria, l'influence de Lull est vraiment beaucoup plus présente. Il dit qu'il voit vraiment, il voit dans cette méthode quelque chose d'extrêmement prometteur. En fait, le passage qui concerne la division des propositions est un passage qui est en fait le passage qui prend le plus de place dans le DRT combinatoria. Il prend quasiment un tiers de l'ouvrage, on va dire un quart plutôt. Et ce passage est réellement influencé par Lull et les secondes analytiques d'Aristote. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est dans une optique entièrement syllogistique le fait de regarder comment, en divisant le sujet et le prédicat, la notion de copule va pouvoir s'interpréter en notion d'inclusion et donner permettre le raisonnement. Troisième chose peu commentée du De Arte Combinatoria, sur lequel Michel Serres et Knobloch se sont attardés, c'est la Capitum Theorea, ou la théorie des têtes de variation. C'est donc une notion qu'introduit Leibniz dans De Arte Combinatoria, qui est une notion purement mathématique, enfin, à son sens, dans le De Arte Combinatoria, les liens entre mathématiques et métaphysique sont assez proches. Donc, c'est à la fois mathématique et métaphysique. La théorie des têtes est une sorte de systématisation du deuxième mouvement. Enfin, donc ça, c'est ce passage de Michel Serres explique que donc dans la pensée leibnizienne, il y a toujours, ça articule toujours sous une forme de double mouvement. Le mouvement de création qui est la combinatoire au sens propre, c'est-à-dire on combine et on crée toutes les choses possibles, donc c'est la création de tout le monde possible. Et ensuite un mouvement de sélection qui est le choix du meilleur monde possible parmi toutes ces. Donc ce deuxième mouvement n'est pas combinatoire au sens de Serres. Il serait de bonne guerre d'interroger De Arte sur le point de savoir si d'aventure il ne convient pas ce second mouvement. La question ne peut être résolue que par l'affirmative, donc oui, il contient ce second mouvement. Et ce second mouvement, pour Serres et pour Knobloch aussi, c'est cette Capitum Theorea, c'est-à-dire le fait de. Leibniz propose un système général qui n'est pas subordonné aux disciplines pour sélectionner les bonnes combinaisons, les bonnes variations. Donc ça, c'est c'est les définitions que donne Leibniz dans le De Arte Combinatoria, et ce sont des définitions qui sont extrêmement obscures. Alors, j'y ai repensé là depuis, je pense que ma traduction n'est pas très bonne, j'étais tellement pas sûr de mes traductions que j'ai laissé le texte latin, je pense que la traduction de la première n'est pas forcément très bonne. Moi je le traduis comme la tête d'une variation et la position de certaines parties, la forme d'une variation et celle de toutes les parties dont la position se maintient dans plusieurs variations. Et je pense qu'en fait, le format variationniste est peut-être en incise et que du coup c'est bien la tête de variation qui est la position de toutes les variations, de toutes les parties dont la position se maintient. En tout cas, quand on lit le De Arte, la définition c'est celle-là, la tête d'une variation c'est une partie fixe, une partie qui ne varie pas. Donc dans un objet variable, la tête d'une variation c'est une partie qui va être fixée. Et ensuite Leibniz rajoute une nouvelle notion qui là pour le coup est vraiment extrêmement étrange, qui est l'homogénéité. Une chose homogène est une chose qui peut bouger sans influencer la tête de la variation. Donc c'est extrêmement obscur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons que j'ai une structure combinatoire, donc ici j'ai la tête, et ici j'ai des choses qui peuvent varier. Donc ça peut varier. Et j'ai un objet que je découpe en parties. Cet objet est homogène et donc les parties vont aller se répartir dans la structure combinatoire. Et donc ici, normalement, on ne peut pas bouger. Ici, on peut bouger comme on veut. Mais comme ces choses-là sont homogènes, elles sont indiscernables, et donc en fait, elles vont pouvoir bouger entre elles, malgré la tête. Donc celle-ci va pouvoir aller là, enfin, elles vont pouvoir s'échanger entre elles. Donc elles ont une sorte de. Elles appartiennent à la même famille, et donc pour entre elles, elles peuvent passer outre la contrainte de fixité de la tête de variation.
Juste une petite remarque, c'est pas une chose qui n'a pas d'homogénéité, c'est une chose qui n'a pas d'homogène. Une chose qui est homogène, et la tête, elle a ou elle n'a pas d'homogène. Si elle n'a pas d'homogène, je pense qu'elle est monadique. Qu'est-ce que tu en penses?
La homogénéa a l'air d'être un adjectif de.
Voilà, c'est pas qui n'a pas d'homogène. De choses homogènes.
Ok, de choses homogènes. Ok, d'accord. Qui n'a pas de choses homogènes. Oui, c'est ça.
Ok. Ça, c'est un... Tu supplées un REM qui serait sous-entendu. Les deux traductions sont en positif, je crois.
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas clair.
Et
en fait, donc là, je l'ai pas dit, mais entre parenthèses, Leibniz renvoie au problème à des passages ultérieurs du DRT où il utilise ces notions, et on comprend très vite pourquoi il le renvoie, parce que en fait, sans aller voir exactement ce qu'il fait, on comprend pas. C'est pas possible de comprendre ce qu'il fait. Et je pense que c'est possible même qu'il ait mis ses nerfs à posteriori. Donc voilà, donc ça c'est un schéma que j'ai fait durant mon mémoire du DRT. Cette barre verticale représente l'œuvre. Et donc le DRT est rédigé comme une œuvre mathématique, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes posés, et donc il pose le problème, la solution mathématique, et ensuite les usages. Et donc on voit en fait que l'écriture universelle, ça n'est que... j'ai pas pris le bon schéma où il y a les usages aussi. Du coup, l'écriture universelle, c'est une toute petite partie au milieu des problèmes 1 et 2. Et en fait, on voit que les trois grandes parties qu'il utilise, qui sont celles-ci, la grande au-dessus et puis la grande au-dessus là-haut. Et donc ces trois grandes parties sont décernées. La première au décompte des syllogismes, la deuxième, comme je l'ai dit, à la division des propositions, et la troisième tout en bas à de la poésie. Et donc finalement, on se rend compte que les endroits sur lesquels Leibniz insiste le plus et prend le plus de temps ne sont pas liés du tout, enfin ne sont pas nécessairement liés à ce projet de caractéristique universelle auquel on a si fortement lié le DRT combinatoire. Ok, donc Leibniz publie le DRT, la dissertation DRT combinatoire en 1666 à Leipzig. Il en publie une autre version qui s'appelle Disputatio de Arithmeticorum Complexionibus. Voilà, une autre version qui est destinée à l'université de Leipzig pour demander un poste qui lui est refusé à cause de son jeune âge. Et on voit d'ailleurs que cette version est très très courte, il ne présente que les deux premiers problèmes. Et en fait, tout ce qu'on dit du DRT combinatorial n'est pas dans cette version. Donc, ça n'est pas celle qu'il présenterait en tant que sa thèse de philosophie. Donc, ensuite, il part faire une thèse en droit en 67. Et puis, il rejoint Mayence jusqu'en 72. Durant cette période, c'est surtout des écrits de droit et de théologie qui vont reprendre les projets explicites que l'on voit dans le De Arte Combinatoria, à savoir le fait de mathématiser le droit, le fait d'avoir ce lien par exemple qu'il y a dans le De Arte Combinatoria, dont j'ai pas plus le temps de parler, entre Euclide et droit, qui lui vient de son professeur de maths Weigel, est un sujet sur lequel il va travailler durant ces années-là. Voilà. Et donc en maths, si on lit les textes qu'a relevé Knobloch, il n'y en a qu'un seul en fait, qui est durant cette période. Alors qu'il vient d'écrire une dissertation qui a la forme d'un texte de maths, finalement on ne retrouve qu'un seul texte combinatoire entre 66 et 72, qui est De Descriptionibus Numerorum. Il n'est pas très bien daté. Knobloch le situe entre 67 et 70. Donc, c'est pas vraiment. Puisque 60, il n'est pas vraiment au même endroit, tous ces endroits, mais c'est pas vraiment. Quand est-ce qu'il l'a écrit? Et ce texte est un texte où la limite s'applique à faire la décomposition des nombres en puissance de 2. Donc c'est l'écriture dyadique des nombres. Et donc il fait un lien avec le De Arte Combinatoria, puisqu'il a déjà vu dans le De Arte Combinatoria que la suite progressive, enfin la suite des puissances de 2, joue un rôle dans les nombres combinatoires. Donc voilà, jusqu'à Paris, on sait que vu ce qui se passe en 72, il a eu des lectures qui ont eu un impact nécessaire, notamment Pascal, dont j'ai pas parlé, mais dont on est quasiment sûr qu'il ne l'a pas lu pour la rédaction du De Arte Combinatoria, puisque le traité du triangle est publié en 65, donc à peine un an, enfin même pas un an si on regarde les dates, c'est moins d'un an avant le De Arte Combinatoria. Le temps de rédaction, etc. Et le fait qu'il n'y ait aucune référence, et le fait qu'il n'y ait absolument aucune trace de probabilité dans le De Arte Combinatoria, c'est un sujet qu'il ne connaît pas à cette époque, va aussi dans le sens du fait qu'il n'a pas lu Pascal. En 72, on sait qu'il a lu Pascal, on sait qu'il l'a lu brièvement, mais on sait qu'il l'a lu. Donc il s'est passé des choses, mais on n'a pas vraiment de traces d'écrits mathématiques dans cette période. Donc on a, j'ai retrouvé cette lettre au duc de Hanovre qui date de 71, donc c'est bien avant qu'il aille à Hanovre, où c'est une sorte de CV qu'il donne, et donc j'ai pris des extraits où il parle justement de ces avancées qui concernent l'art combinatoire. Et la plupart des choses ont un rapport avec le De Arte Combinatoria, donc surtout le premier passage qui dit qu'il a trouvé un moyen d'étendre toutes les sciences grâce à l'art combinatoire que Lull et Kircher avaient certes développé mais dont ils n'avaient pas saisi la nature profonde, ce que Descartes et d'autres avaient fait en algèbre et en analyse, par l'algèbre et l'analyse, en arithmétique et en géométrie. Voilà, donc ensuite il parle de ces notions proposées, de l'alphabet, donc on est déjà dans cette vision très centrée sur l'écriture universelle du De Arte Combinatoria. Cette découverte, donc celui qui aura découvert la caractéristique universelle, est mère de toutes les découvertes et représente la plus importante à mes yeux, bien qu'elle ne soit guère connue jusqu'ici. En mathématiques et en mécanique, j'ai trouvé au moyen de l'art combinatoire quelques résultats qui ne sont pas les plus anodins au regard du quotidien. C'est une interrogation, je cherche encore, je trouve. Quels sont ces résultats? Pour l'instant, j'ai juste le texte de Knobloch. Je ne désespère pas de trouver les textes non édités, de cette période. Et en optique, j'ai découvert un moyen qu'on avait jusqu'alors cherché en vain de mesurer depuis un point au moyen des perspectives. J'ai entendu dire que certains ont tenté, d'autres ont formé le projet dans cette direction, mais n'avaient réellement compris, et pour cause, j'ai trouvé ce moyen grâce à l'art combinatoire. Donc, dans ce passage, on voit aussi que dès 71, il est conscient qu'il est seul, qu'il est le seul à avoir compris ce bienfait en mathématiques de l'art combinatoire et en sciences de l'art combinatoire. Et il explique l'échec des autres parce que eux ne disposent pas de ce dont lui il dispose, à savoir l'art combinatoire. Ok, je ne sais pas combien de temps il reste.
Là, il est presque 4 heures, donc il faudrait. Je peux squeezer un peu ma partie, mais.
Une grande réussite de Leibniz à Paris, comme on le sait, c'est le calcul de la quadrature du cercle au moyen d'une série. C'est une de ses grandes productions. Et dans un texte, dans une lettre à Larocque de 1675, il dit qu'il a trouvé cette quadrature grâce à l'art combinatoire Et donc c'est quelque chose d'assez obscur. Il dit qu'il a dénombré quantité de métamorphoses, qu'il a fait une combinaison de figures planes ou solides, que ça lui a permis de découvrir la quadrature du cercle. Quand on regarde d'autres textes de la quadrature du cercle, ses origines sont explicitées par Leibniz. C'est principalement un écrit de Mercator sur les logarithmes et un écrit de Wallis sur l'arithmétique minimum, donc sur les quadratures des polynômes, sur les rectifications des polynômes. Et donc, j'ai cherché un peu où est-ce qu'il y aurait eu des passages où Leibniz aurait explicitement fait ses combinaisons de figures. J'ai trouvé un endroit, mais pour l'instant c'est pas très très fondant, mais donc c'est un passage qui s'appelle en plus Arithmetica Infinitorum, donc c'est peut-être une référence à Wallis. Donc dans ce passage, Leibniz va dénombrer entre ces lignes-là, il va faire passer des lignes de différents degrés, et donc toutes de la forme x puissance p 1 moins x puissance q. Okay. Et il va calculer l'intégrale de ces figures, et il va les disposer sous forme de triangle arithmétique de Pascal. Donc en fait, ça c'est les intégrales, et ça c'est les formules. Donc A plus R est égal à T, c'est une constante. Et donc on voit qu'il y a cette idée de mettre sous forme de triangle arithmétique. En fait, il a retrouvé un lien entre les deux. Ce triangle. Donc en fait, après, il inverse, il obtient ce triangle-là. Et en fait, on voit que si on divise la ligne n par n, on obtient la ligne du triangle arithmétique de Pascal. Donc voilà. Et au-dessus, j'ai un triangle arithmétique de Mercator qui est un peu différent, qui est donc, il prend la liste des cubes et ensuite il prend leur différence, la différence des successeurs, etc. Et puis il continue, donc c'est une sorte de dérivée discrète, dérivée successive discrète. Et en dessous, on voit qu'il remarque qu'il y a une relation la relation du triangle arithmétique. Donc si on prend k plus i, on obtient l. Si on prend l plus g, on obtient l, etc. Et donc en fait, si on retourne le triangle, on réobtient la même relation que la relation du triangle de Pascal. Donc je me demande si ce genre de... Donc j'essaye de... La piste que j'ai, c'est de travailler l'intérêt qu'a vu Leibniz dans ces triangles arithmétiques qui sont...
Tu as lu Historia Torico? Parce qu'il explique ça.
Ah oui,
okay. Tu l'as lu ou pas?
Oui, je l'ai lu, mais...
Je te le renvoie. Okay. Tu as la traduction?
Oui, j'avais la traduction.
Donc, regarde, parce qu'il explique qu'il parle de ça, en tout cas.
D'accord, ok. Bah, je vais aller... Merci. Ok, voilà. Donc ensuite, bon, ça c'était un truc, c'est une citation que j'avais trouvée sur la combinatoire en géométrie qui me faisait penser. Mais bon, c'est pas très important. Je vais juste terminer sur Knobloch, puisque j'ai pris trop de temps. Knobloch divise l'œuvre mathématique de Leibniz combinatoire en 5 domaines, ce qu'il appelle la combinatoire au sens strict, la théorie des nombres, plus particulièrement le problème des partitions d'un nombre, les fonctions symétriques, les déterminants et les probabilités. Cette division-là correspond à ce que Knobloch appelle la combinatoire mathématique de Leibniz. Mais en fait, on se rend compte que dans des domaines comme la quadratura ou d'autres, qui ne rentrent pas dans ces domaines-là et qui sont pourtant mathématiques, la combinatoire joue un rôle. Et je termine sur une citation de Knobloch, justement sur la vision élargie de la combinatoire qu'il décide de ne pas traiter. Donc il dit la combinatoire voit sa signification élargie pour la limite. Il serait donc faux d'identifier l'ars combinatoria avec l'expansion actuelle d'analyse combinatoire, puisque la compréhension qu'avait la limite de cette science s'oppose à notre conception moderne. La citation en dessous reprend la même idée. Si l'ars combinatoria avait pour seul objet de trouver le nombre de variations, donc c'est ce que dit la limite dans la lettre 1678 à Tchernos, c'est qu'effectivement, si l'art combinatoire n'était qu'une simple discipline de dénombrement, effectivement, l'art combinatoire serait subordonné à l'algèbre, mais dans la vision de la limite, c'est l'algèbre qui est subordonnée à la combinatoire. Et je voulais juste revenir là-dessus pour le DRT combinatoria. Je pense que cette vision-là, justement, n'est pas claire pour le DRT combinatoria, puisque dans le DRT combinatoria, la combinatoire, le dénombrement stricto sensu, donne à la limite des résultats vraiment convaincants. C'est-à-dire que pour lui, la découverte des nombres combinatoires et la découverte de la factorielle, etc., lui permettent de faire des dénombrements de syllogismes, etc., et de revenir sur des résultats d'autorité du passé. Donc c'est le rôle de la combinatoire très basique dans le DRT combinatoria n'est pas le même que le rôle de cette combinatoire très basique plus tard, où il va se rendre compte qu'en fait elle est très basique. Dans le DRT combinatoria, il n'a pas conscience qu'elle est très basique, et donc pour lui elle a un vrai rôle créateur qui lui permet d'avoir elle est très légitime et elle n'est pas subordonnée, entre guillemets. Voilà. Et je m'arrête.
Ok, super, merci. Et je vais peut-être revenir juste sur le schéma de Knobloch. En fait, quand vous regardez un petit peu les domaines dans lesquels la limite travaille en combinatoire stricto sensu, en fait, ce qu'on constate, donc là, Ariès a donné l'exemple dans la quadratura, mais en fait, ici, si vous regardez, vous posez la même question pour la théorie des nombres, vous avez trouvé aussi des choses à Paris, ça c'est là-dessus que travaille Morgan Hoog, qui malheureusement n'est pas là. Et si vous regardez les probabilités et les jeux, vous allez aussi vous rendre compte qu'il a une approche combinatoire à la probabilité des jeux à Paris. Donc en fait, tous ces usages de la combinatoire qui dévorent complètement la simple question des combinaisons, des arrangements, etc., sont des choses sur lesquelles il a vraiment travaillé à Paris. Et donc, on a bien confirmation, en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a travaillé dans plein de domaines. À chaque fois, il a élargi avec une idée de combinatoire élargie, mais qui n'est pas celle du DRT combinatorial. Et il a réinterprété ça plus tard en disant « Oui, mais il y avait déjà l'idée dans l'écriture universelle. » Ce qui est vrai. Et c'est ce qu'il annonce en fait au duc Jean-Frédéric en 71. Il avait bien eu cette idée, il l'a bien mise en œuvre, mais elle n'est pas dans le DRT combinatorial. Et l'autre chose qui est très étonnante, c'est qu'elle est extrêmement féconde. C'est-à-dire ici, elle permet, ça c'est l'application à l'algèbre, elle permet de déterminer une forme des polynômes et des relations sur les formes. Ici, évidemment, c'est toute la théorie des probabilités qui s'ouvre. Et ici, en fait, elle permet de démontrer le petit théorème de Fermat, comme il le redira plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire de bien comprendre... je suis parti en au sens. Ouais. C'est de bien comprendre que, effectivement, c'est vrai. Ce n'était pas gagné. Effectivement, c'est vrai qu'il a utilisé... Oui.
Comme concept de la combinatoire
dans DRT
combinatoria.
Ouais.
Tu le définissais comment?
On le définit pas. Le DRT combinatoire, il s'appelle comme ça, oui, et donc il donne une image de ce qu'il appelait l'art combinatoire à l'époque, et en gros, c'était le sous-titre de la thèse de Ariès, c'est un chaos. C'est-à-dire, quand tu regardes pour de vrai et que tu te demandes qu'est-ce qui fait tenir tout ça, en fait, c'est très mystérieux. C'est vraiment, ça part dans tous les sens. Mais ce qu'on constate, c'est qu'après, quand il doit donner son CV, il dit « Ouais, mais j'ai eu une idée. » Et d'ailleurs, bien plus tard, il dira « C'était la grande idée du DRT combinatoria. J'ai eu une idée, Et là, on peut se dire, mais c'est quoi le lien entre cette idée et les mathématiques? Puisqu'en fait, on vient de défaire ce lien qui existait. C'est un tout petit point du DRT qu'on a avant, tout le reste est un peu disparu. Et effectivement, on constate qu'il a mis en œuvre une méthode combinatoire dans un sens beaucoup plus large que ce qu'il utilisait, c'est-à-dire tout simplement le dénombrement des variations, qui est une méthode de variation. Et qu'il pratique de manière systématique. Et la chose importante, c'est qu'il obtient des résultats assez éblouissants dans tous les domaines qu'il va toucher comme ça. Donc on a confirmation que, eh ben, il y a une sorte d'enthousiasme autour de l'ars combinatoria qui le justifie a posteriori sur son rêve de jeunesse, mais en voyant bien qu'il se charge progressivement d'un sens mathématique complètement différent. Mais la chose vraiment importante, c'est de bien comprendre, et ça je pense que c'est ce qui va ressortir encore plus clairement à la fin de la thèse d'Ariès, c'est-à-dire, quand il dit que c'est un ars inveniendi, c'est pas des mots en l'air. Il l'a vraiment fait, et il a vraiment trouvé énormément de choses comme ça. Alors moi, ce que je voulais vous raconter, c'est précisément bah, qu'est-ce qui se passe dans la période, je dirais à partir de Paris et puis plus tard. Est-ce que vous voulez qu'on allume ?
Non.
Ça va. Et en fait, la période, ce qu'on voit, donc moi je vais m'intéresser surtout à l'aspect méthodologique. Donc en fait, on voit deux choses qui sont tout à fait, qui prédominent vraiment dans les références à l'art combinatoire après. La première chose, et ça c'est quelque chose qui est différent de ce qu'il y a dans le DRT combinatoriel, donc prêtez bien attention à ça. Vous allez voir énormément de textes qui vont opposer l'analyse et la combinatoire comme les deux parties de l'ars inveniendi. Et ça, c'est très différent parce que dans l'ars combinatoria, la combinatoire, c'est la partie analytique de la logique. Donc ça, prêtez bien attention à ça, et c'est le motif de la querelle avec Tchernos et avec les algébristes. Tous ces gens qui disent que l'algèbre est le nouvel ars inveniendi, un thème qui vient de Viète, ils se trompent parce qu'ils n'ont pas vu la puissance inventive de la combinatoire. Et nous, maintenant, on sait pourquoi ils disent ça. Il sait parce qu'il l'a expérimenté. Ça marche. Donc ça, c'est très important. Ça va venir tout le temps, par souvent, bon, c'est des textes qui sont très connus, Arnaud les connaît par cœur, sous la forme de l'opposition entre deux types d'esprits, les esprits combinatoires et les esprits analytiques. C'est typique des textes méthodologiques des années 78, 79, jusque dans les années 80. Donc ça, on va le voir très très souvent. Si on s'intéresse à la maté superficialiste, le premier texte qu'on a de 79, que les éditeurs d'Hanoeuvre ont appelé DRT combinatoria, etc., il maté superficialiste, mais ce titre ils l'ont inventé, ben c'est parce que ça parle de ça, exactement de ça. Et puis l'autre chose qui va prédominer, c'est ce thème qui va revenir constamment, c'est-à-dire que la mathématique ne traite pas seulement de la quantité, mais aussi de la forme, et elle comprend une branche, qui est donc cet aspect combinatoire, qui dépend de la science des formes et des formules, qui elle-même est la combinatoire générale. Alors vous avez bien compris, la partie générale, elle joue le rôle d'ars inveniendi pour toutes les mathématiques. Mais en plus, il y a une partie spéciale dans les mathématiques qui se traite de la forme. Donc la forme, elle apparaît deux fois, elle apparaît au niveau général, parce que par exemple, si je fais de l'algèbre, je peux regarder les formes algébriques, et donc j'utilise l'ars combinatoria général pour inventer des résultats algébriques, mais la science n'est pas la science des formes, elle est la science des grandes. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver constamment. Alors ça apparaît très tôt. Vous avez ce texte très célèbre, hein, je l'ai mis là juste pour mémoire, ça s'appelle encore l'analyse à l'époque, en 1974, et c'est l'idée qu'on peut étendre l'analyse à d'autres choses que des quantités, c'est dans la 6.3, vous irez le relire si vous ne l'avez pas à l'esprit, mais c'est très clair que l'idée c'est d'étendre les analyses à des combinaisons, et que ça va permettre d'atteindre, que ça montre la dépendance à une caractéristique universelle, donc on a la mise en place de ce thème-là, avec le lien entre une mathématique du qualitatif, l'ordre, les relations et tout, regardez la citation. Et l'autre thème qu'on voit, on l'a déjà vu apparaître plusieurs fois, c'est que ça, en fait, ça montre la dépendance des mathématiques à la caractéristique universelle. Mais maintenant, on commence à comprendre ce que ça veut dire. Et avant, pour nous, c'était un programme incantatoire, puisqu'on ne l'a pas, cette caractéristique. Mais maintenant, on comprend ce que ça veut dire. C'est exactement ce qu'a montré Ariès. C'est-à-dire, il essaye, comme ça, des méthodes de variation avec des lettres, avec des chiffres, peu importe, qui sont les méthodes de variation abstraites, et ça produit des résultats. Et ça, pour lui, c'est un exemple prototypique de ce que fait la caractéristique universelle. Ce n'est pas la caractéristique universelle, mais ça montre la dépendance des mathématiques à une spécieuse générale. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, vous allez trouver ça dans plein de textes. Un des textes qu'on a... Arnaud avait fait la traduction de ce texte, on l'a mis dans notre... volume parce que ça suit bien la position de la mathésis dans ce schéma, c'est celui du plus ultra. Et donc là, vous retrouvez les différents éléments et vous avez bien cette idée que ben, vous avez l'ars inveniendi qui a deux parties, combinatoire et analyse, ouais, ça c'est très clair. Ensuite, vous prenez en compte les caractères et là, vous allez retrouver avec une combinatoire spéciale et une combinatoire et une analyse spéciale. Et les deux forment la mathésis généralis. Et en fait, ce modèle-là est souvent pris comme étant, et c'est un peu la seule chose que je voudrais dire dans cette partie, hein, un grand nombre d'entre vous, vous m'avez déjà entendu là-dessus de nombreuses fois, mais le problème, c'est que beaucoup de commentateurs ont pris ce modèle comme étant le programme de Leibniz, le dernier mot de Leibniz. Et notamment en ce qui concerne la matière 7. Donc l'endroit où c'est exprimé le plus clairement, c'est le De ortho progresso et natura algebrae. L'étude vraiment précise du texte montre que ce texte n'a pu être écrit que en 85-86, et pas plus tard, contrairement à ce qu'on croyait. Et là, vous avez vraiment cette déclaration qui est la même, elle est contemporaine de Kusutra. La mathésis ne se réduit pas à la quantité, hein, et donc c'est pour ça qu'elle ne se réduit pas à l'algèbre. Elle a deux parties, la partie qui traite des égalités, la partie qui traite du semblable et du dissemblable, et donc elle a deux parties, hein, l'algèbre ou logistique et la combinatoire. Mais là, c'est la combinatoire spéciale, c'est celle qui est à l'intérieur des maths. Donc là, c'est vraiment ce thème qu'il y a cette science du semblable et du dissemblable, et elle a deux faces, une face méthodologique générale, hein, et une face à l'intérieur des mathématiques. C'est aussi simple que ça. Et le thème, il est très clair, le thème, c'est de faire une science des formes. Alors, j'aurais pu vous montrer, je ne le fais pas, que en fait, ce thème, il est directeur aussi pour l'analyse situs. C'est un peu plus compliqué à voir, mais on peut voir aussi ça. Vous voyez, en fait, dans le schéma de Bellavaf, ça, cet état, c'est vraiment 85-86. On oublie ça. Hein, oubliez ça. Donc Bellaval aurait raison, il a presque recopié le plus ultra. Presque. Hein. Il a presque recopié le plus ultra. Simplement, il a fait comme si c'était le dernier mot de Leibniz. Hein. Mais si vous enlevez cette partie-là et que vous avez la qualité et la quantité, c'est vraiment typique des textes entre la lettre à Tchernos et le plus ultra. Donc on est entre 78 et même, je peux dire, dans l'analysis. Alias Res, Applicata, c'est la même idée. Donc on peut même dire que dès 73-74, on a la germination de ça, sachant qu'il faut quand même que l'analyse situs se soit un petit peu installée pour que cette science de la qualité ait plus de grains à moudre, en fait. C'est pas très clair ce qu'il entend par ici, mais ça c'est très clair. Mais grâce à Arrides, maintenant on a plus d'idées de ce qu'on pourrait mettre ici, d'autres formes que les formes jeunes. Donc, je vais aller très vite, mais le constat qu'on fait quand on travaille sur la mathésis universalis, puisque c'est marqué là, tout là-haut, logique de l'imagination, c'est qu'en fait, d'abord, il n'y a pas tant de textes que ça. Là, vous avez la liste quasi complète. Bon, modulo, le fait qu'il y a plein de lettres où il mentionne, mais de toute façon, il répète tous la même chose. Donc là, vous avez la liste complète. Dans cette liste complète des textes qu'on a étudiés, vous n'avez que 5 groupes. Hein, 5 groupes de textes. Les autres, c'est des mentions. Donc vraiment, c'est rien. c'est un truc qui est un peu décevant quand on travaille sur la matérialiste, c'est comme chez Descartes, hein, c'est deux de lignes. C'est rien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais enfin, c'est beaucoup moins qu'on croyait. Par exemple, si vous faites la même chose avec l'ars combinatorial, ou même avec la science générale, ça va être plus, en fait. Ça va être plus, vous aurez plus de textes. Et encore plus si vous prenez des trucs comme les spéciaux générales et caractéristiques universelles. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est qu'en fait, il y a une césure. Il y a une césure absolument nette, c'est-à-dire que tous les textes dont je viens de parler et que commentent et qu'utilisent les commentateurs, ils sont ici. Vous voyez là, dans le bloc numéro 1, c'est celui dont Arrides a parlé, avec le grand programme au duc Jean-Frédéric, c'est la même lettre. Le bloc numéro 2, c'est celui dont tout le monde parle, pour les textes méthodologiques, hein, ceux où il y a l'opposition, etc. Et puis cette idée d'une logique d'imagination. Mais maintenant, quand ils parlent des blocs numéro 3 et 4, ils font comme si c'était la même chose que dans le bloc numéro 3. Quand on a commencé à faire vraiment le travail, on s'est rendu compte progressivement que non, c'est pas du tout vrai. Et il y a une première chose qui est tout à fait saisissante, c'est qu'à partir des années 90-96, arrive un nouveau thème, qui est celui qu'il faut écrire une science de l'infini. Vous connaissez tous ce programme. Et ce programme, il naît en 90. Là, c'est la dynamica qui fait naître ce thème, et c'est bien connu, ça a été étudié. Et là, on a un nouveau discours sur la mathématique universelle qui est complètement différent. Il dit, les cartésiens ont complètement manqué la mathématique universelle. Pourquoi ? Pas du tout parce qu'ils n'ont pas vu la qualité, comme il disait dans les années 80. C'est parce qu'ils n'ont pas vu la science de l'infini, le calcul différentiel et notamment la science de la force, hein, de l'action ou de la puissance. Donc on a un nombre très grand de textes qui vont dire ça dans les années 90, aucun avant. Et c'est concentré dans cette période. Et c'est tous dans le même contexte, c'est dans le programme plus intéressant peut-être, dans un des textes qui a été édité par Gerhardt, sous un titre qui est faux, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Leibniz dit, j'avais ce projet d'écrire quelque chose, ainsi j'avais d'abord résolu, de manière raisonnable, de traiter la seule science de l'infini qui est la partie la plus élevée de la mathématique généraliste. Je voulais faire ça, et je viens de vous dire qu'on sait que c'est vrai, on a les textes où il dit qu'il voulait faire ça, c'est typique de Leibniz. Et il dit, Mais je me suis rendu compte qu'il fallait faire... j'avais commencé à le faire, mais j'ai considéré plus tard que la logistique commune qui vient sous le nom d'ALGEM n'est pas rapportée à ses sources et qu'on n'a qu'à passer la manière d'estimer en général. Grosse surprise. Écoutez bien ce que Rémy est en train de dire là. Il est en train de dire, je voulais faire un manuel de calcul d'IF qui allait montrer aux cartésiens qu'ils n'avaient pas compris ce que c'était la matrice universaliste, mais je me suis rendu compte qu'ils n'avaient même pas compris ce que c'était que l'algèbre. Donc c'est un programme complètement différent de celui des années 80. Et la chose qui est tout à fait saisissante, alors après je vais passer vite parce qu'il faut qu'on ait le temps pour la discussion, on a tout décortiqué, on sait quand est-ce que ce programme se met en place, il est dans la seconde moitié des années 90, c'est l'abandon de la Scientia Infinity parce que l'hôpital a publié son fauteuil tout simplement, et c'est un nouveau projet qui va être le projet d'une écriture de l'algèbre sous la forme logique. Projet que Leibniz appelle systématiquement une logica mathematica. Donc ça c'est typique de cette deuxième période, on sait comment ça se passe, je vais aller très vite, c'est celui où il y a ce fameux texte où on a la subordination, mais je vais aller très vite. Et alors qu'est-ce qui est la grande surprise de cette époque-là? La grande surprise de cette époque-là, qui est donc à partir de la seconde moitié des années 90, c'est que désormais, la matrice universaliste est définie systématiquement sous sa forme la plus archaïque, c'est la science universelle des quantités. La qualité a disparu de la définition de la matrice universaliste. Elle n'a pas disparu du paysage, elle a disparu de la définition. Donc vous voyez, la principale chose qu'on aimerait vous dire, c'est qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir en disant que l'ars combinatoria a continué à jouer la même position, puisqu'il a tout simplement disparu du tableau dans sa position interne à la matrice universaliste. Okay ? Ça ne veut pas dire qu'il a disparu du tableau des mathématiques, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas à jouer un rôle important, on va en reparler. Et donc ce fameux texte qui est cité tout le temps, où Leibniz explique une nouvelle fois, je l'ai cité tout à l'heure, en vous disant, il dit toujours la même chose Leibniz. Oui, il dit toujours la même chose, mais sur certains aspects. Et dans ce texte, il dit juste que l'algèbre dépend de l'arc combinatoire, ça il n'arrêtera jamais de le dire, à cause de sa théorie des déterminants, des nombres fictifs et tout, c'est comme ça. Ce texte-là est dans un contexte dans lequel désormais la matrice universaliste se limite à la science universelle de la quantité. Donc c'est très différent que quand il disait, ce qu'il dit dans les années 80, en regardant la subordination de l'algèbre à l'art combinatoire, je me rends compte qu'il y a un aspect des mathématiques que j'ai manqué, qui est la forme, et il faut ouvrir un nouveau domaine des mathématiques, qui est la science des formes, dans lequel il y aura cette théorie des déterminants, l'analyse in situ, c'est très différent ce qu'il est en train de dire ici. S'il est en train de dire ici, c'est juste la partie qui concerne l'algèbre, et il a gardé que cette partie-là. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que quand vous regardez l'évolution de l'analyse in situ aussi à cette époque-là, il a changé de statut, ça a été étudié par Vincenzo De Resi. Je ne veux pas rentrer dans le détail, on peut en reparler dans la discussion. Et quand vous regardez dans les initiales, c'est le même contexte. C'est le même contexte. Il ne s'agit pas du tout d'ouvrir les mathématiques à un nouveau domaine qui serait la qualité, qui serait un domaine propre qu'on étudierait dans une théorie propre. Il s'agit de montrer qu'à l'intérieur de l'algèbre, il y a des aspects qualitatifs ou formels qui sont liés à la combinatoire. Et qu'on manque si on ne fait pas intervenir la combinatoire. Donc, c'est le même contexte. Donc, quand vous regardez un petit peu les textes, ce qu'on voit, c'est qu'on ne va pas pouvoir tenir, même si l'art combinatoire tient une position prééminente jusqu'au bout, ça on en est sûr, il n'a pas la même relation avec les mathématiques dans l'organisation encyclopédique. Il n'a pas la même... Et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'à partir de là, le projet d'une logique de l'imagination et d'une science générale de la quantité et de la qualité disparaît. C'est-à-dire on n'a plus aucune mention de ce projet. C'était vraiment une de nos grandes découvertes. Et ici, ça revient à la science de la quantité, d'abord autour de la science scientifique, et ensuite autour d'une approche logique des mathématiques. Donc, c'est très surprenant parce que ça va à rebours de ce qu'on attendrait. C'est un rétrécissement au lieu d'être un élargissement. Et c'est pour ça que tout le monde va ici, parce que ça, c'est vachement plus excitant du point de vue mathématique moderne. Ça, c'est très décevant. Donc voilà les deux schémas, vous avez les textes, il n'y a pas d'exception. Il y a une exception que je vais mentionner quand même. Il n'y a pas d'exception sur cette partie, bon, c'est en anglais, parce que j'ai fait plusieurs fois des confs en anglais, mais c'est pas c'est tout seul. Et ça, c'est la deuxième série de textes. Donc c'est très clair, là, c'est la science universelle de la partie. Il y a une exception, ces fameux textes, les nouveaux essais pour l'entendement humain, et la comparaison entre la logique et la mathématique universelle, qui est en fait le texte, le point de départ de tout le monde, de Russell, de Couturat, de Hermann Weyl, de tout cela. Et en fait, d'abord, il faut savoir que c'est une exception. Déjà, en soi, c'est intéressant. Pas du tout un texte qu'on a le droit de prendre comme étant représentatif de son époque. Et deuxièmement, il faut bien relire ce texte en voyant qu'il s'agit d'une comparaison entre la logique et la mathématique universelle, et pas d'une identification. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on sait aussi, et je vous l'ai déjà mentionné, qu'il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné ce discours-là, puisqu'on a la lettre à Avignon et toute cette littérature dont va vous parler Michel Fichon autour de la restitution universelle qui nous amène dans les années 1700, hein, donc qui est contemporaine. Donc il n'a pas du tout abandonné cette idée d'un art combinatoire général, d'une écriture universelle et d'une combinaison des vérités. La question est de savoir, est-ce que ça a le même statut qu'avant? Donc ça, Fichon vous le racontera, mais vous savez que sa thèse, c'est que non. C'est-à-dire qu'il a une lecture presque ironique de ces textes. Ces textes sont presque une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, si on prend une combinatoire finie avec un alphabet fini, on va être obligé d'accepter l'éternel retour des vérités. Est-on prêt à accepter ça, d'un point de vue théologique? Bon, c'est une manière de lire ces textes. Hein. On ne peut pas dire que les textes disent ça. Les textes font la démonstration. Après, le fait de les interpréter un peu de manière comme ça, c'est ce que dit Fichon. Je pense que c'est convaincant, mais ça reste une interprétation. Donc, si nous, on a une question... On a une question qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il faut encore, pour le moment on a regardé ça bien du point de vue de la mathématique universelle, maintenant il faut regarder ça du point de vue propre de l'art combinatoire et de l'art combinatorien, et regarder si oui ou non on a des exemples qui pourraient nous laisser penser que c'est plus une hésitation, par exemple, qu'un changement brutal ou des choses comme ça. Donc tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que le schéma bien organisé des années, celui-là, logique de l'imagination avec deux branches. La partie gauche, quand on regarde dans ce plan, dans le schéma de Delaval, celui-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ça correspond à une date bien précise. Ça, on peut le dire. Et que ça s'arrête. Ça, c'est quand même intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que vraiment, on n'a que ça? On n'a que ça quand on regarde la mathématique universelle, c'est sûr. Mais est-ce que quand on regarde du point de vue de l'art combinatoire, on a une vue plus compliquée? C'est pas encore très clair pour nous, tout simplement par faute d'avoir accès au manuscrit, on va travailler là-dessus. Et la question se pose, c'est-à-dire quel est le statut ici de cet art combinatorien qui est mentionné, mais dont pour le moment l'effectivité est uniquement donnée dans cet exemple-là ou dans l'arithmétique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est bien, parce qu'on arrive à 16h20. Donc on a le temps de discuter avant que arrive Spark. Et donc je vous propose que vous posiez d'abord les questions sur la partie RES et après sur cette demande-là. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci.